voulons bénir ensemble le Seigneur. Dire du bien, penser du bien, croire le bien. Béni soit ton nom, alors tu donnes l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Seigneur, une ou deux phrases, tous ensemble, le bénir, dire du bien, penser du bien à son sujet, et lui faire du bien ce matin avec nos chants, notre prière, mais aussi notre obéissance, notre service, tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, nous voulons le vivre pour lui et en son honneur et pour sa gloire. Merci notre Dieu d'être grand, d'être puissant, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui pense à nous, un Dieu proche. Tu n'es ni lointain, ni silencieux, mais tu parles. lorsqu'on t'écoute et lorsqu'on a de l'intérêt pour ce que tu dis. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi parce que tu as de bonnes intentions à notre égard, à chacun. À toi, notre reconnaissance et notre louange. Amen. Peut-être que nous avons besoin ce matin de nous approcher encore davantage du Seigneur. La première parole de Jésus aux disciples, c'était celle-ci, « Suis-moi ». On pense à Pierre, qui a été le premier à suivre Jésus, avec son frère André, puis il y a eu Jacques et Jean. Et à tous, le Seigneur leur a dit, « Suis-moi ». Et ce matin, peut-être que, comme pour la toute première fois, on pourrait dire, « Seigneur, oui, je veux te suivre, je te suivrai ». Dans les bons, comme dans les moins bons jours, la vie n'est pas toujours facile, et surtout en ce moment, avec les difficultés. Mais au travers de ce chant, on va s'impliquer dans ce chant. On va se l'approprier et dire, « Oui, Seigneur, je te suivrai ».
Quand ma foi est profonde, dans le doute, quand la paix semble fondre, oh, oh. Jésus, je te suivrai.
Sur ta grâce, Seigneur, pour te suivre jour après jour. Merci parce que tu nous en donnes la force. C'est toi qui tiens notre main, Seigneur. Ce n'est même pas nous qui te tenons, c'est toi qui tiens notre main. Mais de notre cœur et de toute notre volonté, nous voulons te dire oui. Nous voulons te suivre jusqu'au bout et t'honorer dans nos vies, dans notre quotidien. Merci de nous donner ta force. Merci, Seigneur. Alléluia. Cette parole de l'apôtre Pierre aussi, qui a été interpellée, lui encore, et souvent lui dans l'Évangile, qui parle un petit peu à notre place en disant, ben Seigneur, à qui d'autre irai-je que toi? Quand je considère la vie, quand je considère ma vie, bien Seigneur, et ta parole, je me dis, toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entamé cette nouvelle série, les sept signes miraculeux, parce qu'ils sont des signes qui pointent vers Jésus, qui a les paroles de la vie, mais qui a aussi l'autorité, la puissance. C'est lui et c'est de lui que vient notre vie. C'est lui qui renouvelle notre être entier. Et c'est lui aussi ce matin qui est le vivant parmi nous, capable de toucher nos vies et de répondre à tous nos besoins. Alors, chantons-le comme une prière aussi ce matin. Seigneur, à quel autre irai-je? À quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous nous Seigneur, et lui dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui devait venir dans le monde pour nous sauver. À toi, Seigneur, notre louange et notre reconnaissance. Alléluia. Voilà, je vous invite à reprendre place. Quel bonheur d'être ensemble. Il nous tarde il nous tarde d'être à nouveau tous ensemble réunis. Donc je rappelle que si vous voulez venir pour dimanche prochain, il faut absolument s'inscrire. Nous n'avons que 245 places et donc c'est impératif de s'enregistrer pour pouvoir participer au culte. Je rappelle qu'à l'entrée de la salle comme à la sortie, vous avez un gros tronc. Pour des raisons sanitaires, bien sûr, on a mis ces troncs en place et vous pouvez laisser là, dans ces troncs, votre offrande. L'équipe technique à la sono, à la projection, l'équipe technique aussi au plan du ménage, compte encore sur votre participation. Si vous avez quelques heures à offrir ici ou là, en tant que bénévole, eh bien, merci de contacter le secrétariat, puis on se fera une joie vraiment de vous intégrer aux équipes qui sont opérationnelles et des équipes en raison de la crise, eh bien, commencent un petit peu à fatiguer et souhaitent avoir vraiment du renouvellement. Donc, merci de votre... Déjà, beaucoup de personnes nous ont appelés. Merci de continuer à appeler. Plus nous serons de monde et moins ça sera fatigant pour tout le monde. Donc, merci là aussi pour votre compréhension et pour votre participation. Appelez tout simplement le secrétariat, le numéro s'affiche, pas de souci. Pour ceux qui ont commandé les livres de Jérémy Poulet, le pasteur de l'église Momentum, qui a été de passage il y a une quinzaine de jours maintenant, les livres sont arrivés pour ceux d'entre vous qui les avaient commandés et vous pouvez maintenant donc aller vers Raymond Pierre pour chercher ce que vous avez commandé. Il est à votre disposition. Puis ceux qui sont en ligne avec nous, bien, n'hésitez pas à un moment ou à un autre d'aller vers Raymond Pierre pour récupérer votre commande. Le sommet mondial du leadership qui a lieu chaque année ici donc dans la grande salle de culte aura lieu cette année le samedi 7 novembre. Donc je rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire, il s'adresse principalement aux responsables, vous êtes responsable d'une équipe, vous êtes même moniteur, monitrice d'école du dimanche, vous êtes impliqué dans une équipe, dans l'EPI où vous avez des responsabilités, même ceux qui nous regardent, responsabilités dans votre communauté, dans votre domaine de responsabilité, n'hésitez pas à vous inscrire, sommetmondialduleadership.fr, et là vous aurez toutes les indications pour pouvoir vous inscrire. Le sommet aura lieu ici sur place, mais il y aura aussi une possibilité de s'inscrire en ligne, ça sera le même tarif et avec le même programme. Dimanche prochain, faites bien attention, dimanche prochain, 1er novembre, nous avons ici un service de baptême. Il y a 10 ou 11 personnes qui vont donc témoigner de leur foi en Jésus-Christ et prendront leur baptême. Et là aussi, je vous demanderai vraiment de vous inscrire. Les places sont vraiment rares pour ce dimanche 1er novembre. Déjà, beaucoup de personnes se sont inscrites, donc n'hésitez pas. Par contre, alors pour dimanche prochain, nous ne pourrons pas diffuser le culte en ligne. Donc, avec nos sincères regrets pour diverses raisons, nous ne pourrons pas diffuser le culte sur YouTube. Ce ne sera pas possible. Donc, merci de votre compréhension. Et donc, voilà. Culte, je pense que je n'ai rien oublié. À présent, nous allons ouvrir la Bible avec le pasteur Raymond Pierre Fagnard. C'est un ancien policier et aujourd'hui, il est pasteur associé. Il est avec nous dans l'équipe pastorale et il a gardé quelque chose de sa rigueur. Et je crois que c'est important qu'on puisse être rigoureux sur le plan spirituel comme sur le plan intellectuel lorsqu'on creuse la parole de Dieu. Et avec lui ce matin, on va creuser la parole de Dieu, notamment dans cette thématique, les 7 signes pour stimuler notre foi. Parce que notre foi a besoin d'être encouragée, elle a besoin d'être stimulée. Et le principal élément pour stimuler notre foi, c'est la parole de Dieu. Et donc on va ouvrir cette parole à méditer avec Raymond Pierre Fagnard. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour poursuivre cette thématique sur les sept signes pour stimuler notre foi. On va regarder comment Jean nous communique au travers de la multiplication des pains et des poissons, comment Jean veut encore nous stimuler dans notre confiance et dans notre dépendance en Jésus. On appelle les sept miracles de l'évangile de Jean sept signes parce qu'ils sont comme des flèches qui pointent vers la personne de Jésus. Ces sept signes révèlent qui Jésus est. Ils révèlent qui Jésus est à des personnes qui sont en doute, à des personnes qui sont dans des situations de faiblesse, peut-être d'autres qui sont dans des situations de crise, ou encore ceux qui sont en recherche. On peut facilement se retrouver et s'identifier à ces personnes dans ce que Jean communique. On peut se retrouver dans ces gens, ces personnes que Jean visait à atteindre. Je crois que ces signes sont là pour nous booster, pour nous fortifier alors que nous traversons une crise sans précédent pour la plupart d'entre nous qui sommes nés après la Seconde Guerre mondiale. C'est une saison de vie stressante, c'est une saison de vie angoissante. Certains ont peut-être la peur de perdre leur emploi dans les prochains mois, peut-être d'autres ont peur pour leur santé. La situation, elle est également alarmante pour nos frères et sœurs azéris et arméniens avec le conflit qui est en train de se passer au Haut-Karabakh. Plus que jamais, nous devons nous tenir au pied de Jésus parce que la bonne nouvelle de l'histoire, c'est que c'est Jésus qui gagne à la fin. Je peux entendre un amen ? C'est Jésus qui gagne à la fin. Avec la multiplication des pains et des poissons, on va voir ce matin comment Jésus s'attend à ce que face à l'impossible, nous lui fassions confiance en déposant entre ses mains ce que nous avons à notre disposition. On commence la lecture et mon premier point ce matin, Jésus ne veut pas nous améliorer, Jésus veut nous transformer. Jésus ne veut pas nous améliorer, mais il veut nous transformer. Jean 6, versets 1 à 2. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée ou du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Avant de commencer l'étude à proprement dite de notre passage, il est intéressant de noter que ce miracle-là, opéré par Jésus, est le seul à être rapporté dans les quatre évangiles, ce qui souligne son importance particulière. Dieu souhaite que nous en tirions quelque chose pour notre cheminement avec lui. Ce n'est pas le miracle en tant que tel que Jésus désire que nous nous souvenions, mais du message qui est communiqué derrière. On le voit dans ce passage, la foule, elle suit Jésus, comme on l'a chanté tout à l'heure, mais à cause des signes miraculeux. Et on voit que Jésus prend le temps de souligner, il suivait Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Peut-être que la curiosité poussait les uns et les autres à voir ce faiseur de miracles. Pour d'autres, c'était la nécessité à cause peut-être d'une infirmité ou d'une maladie ou d'un problème d'ordre spirituel qui était là sur leur vie. La plupart ne suivaient pas Jésus pour qui il était, mais pour ce qu'il faisait. Ils ne venaient pas à lui en reconnaissant leur besoin de le suivre et de lui obéir, mais juste pour qu'il améliore leur vie. Je crois qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous. Au travers de ce passage, à comprendre que Dieu ne souhaite pas être un ajout à ta vie, comme pour l'améliorer, comme pour la faire upgrader, mais Jésus veut être le centre de ta vie. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour apporter une plus-value à notre vie, mais il est venu offrir la sienne à la croix pour que nous puissions en débuter une nouvelle et vivre une vie libérée de l'égoïsme, de l'égocentrisme qui nous fait croire que nous sommes le nombril du monde et où tout le monde doit tourner autour de notre confort et de notre bien-être. Vous savez, notre vie n'est pas compartimentée comme un camembert, avec ici un quart pour Dieu, ici un quart pour ma famille, ici un quart pour mon travail, ici un quart pour mes loisirs, sans que les parties entre elles ne communiquent pas. Dieu veut être celui qui est au centre, la principale source de motivation qui va définir nos actions et nos interactions au quotidien. Dieu au centre de ma vie me pousse à m'interroger sur ce que je publie sur les réseaux sociaux. Dieu au centre de ma vie me pousse à examiner comment je m'adresse à mon conjoint. Dieu au centre de ma vie me pousse à changer de regard sur celui que je pourrais considérer comme étant un ennemi. Mon cœur pleure en voyant ce que l'être humain est capable de faire lorsqu'il est dirigé par ses peurs et ses craintes. On a tous été choqués ces dernières semaines par l'assassinat de ce professeur, égorgé parce qu'il avait montré des caricatures du prophète de l'islam. Mais je l'ai été aussi par ces deux femmes musulmanes portant le voile au pied de la tour Eiffel, poignardées parce qu'elles étaient musulmanes, parce qu'elles portaient le voile. Notre monde va mal, notre monde est malade et nous en sommes tous atteints. Atteints par un fléau appelé péché qui nous affecte et nous infecte tous et dont le remède nous est apporté par Jésus, qui a payé le prix fort pour nous sauver de nous-mêmes. Le problème numéro un de l'homme, ce n'est pas son confort, c'est la contamination de son cœur, du siège de ses pensées, du siège de ses décisions, du siège de ses actions. Alors non, Dieu ne veut pas améliorer notre vie ce matin. Il veut la transformer entièrement, parce qu'il n'y a pas un centimètre carré de nous-mêmes qui n'est pas pourri par le péché. Il n'y a pas un centimètre carré de nous-mêmes qui n'est pas contaminé. Et je ne parle pas ici de la Covid-19, mais de cette nature corrompue en nous, cette transgression des lois que Dieu a mis en place. Et ça m'amène à mon deuxième point ce matin. Jésus a compassion de nous. Continue la lecture, verset 3. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que malgré le fait que Jésus désire être le centre de nos vies, nous voyons qu'il se soucie de nos besoins. Il se soucie des besoins qui se manifestent à lui. Il voit que cette foule n'a rien à manger et il désire répondre à ce besoin. Jésus n'est pas indifférent à ce que nous pouvons vivre, à ce que nous pouvons traverser. Et s'il ne promet pas de répondre à tous nos désirs et à tous nos caprices, il prend un soin particulier à répondre à nos besoins. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu es important pour Dieu. Tu es important. Tu es importante pour Dieu. Pas à cause de tes exploits, pas à cause de tes mérites, mais simplement parce que Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. Tu existes dans le regard de Dieu, simplement parce qu'il t'a voulu. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard sur son programme. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a voulu. Peut-être ce matin, tu es venu avec un besoin particulier. Et j'aimerais qu'on arrête là 2 secondes pour prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ou peut-être sur Internet ? Derrière son écran, qui est littéralement dans une situation où il est dans le besoin. Je vous invite à faire un signe là où vous êtes, simplement avec la main pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin ». Peut-être derrière ton écran, Dieu te voit. Ce n'est pas une question de show aussi ce matin, mais c'est de faire un signe à Dieu, dire « Oui Seigneur, j'ai un besoin. J'ai besoin que tu interviennes. Seigneur, je veux prier ce matin pour toutes les mains levées. Seigneur, tu connais les besoins, tu sais ce qui peut maintenir certains prisonniers dans ce lieu, Père. Mais nous croyons que tu es ce Dieu qui pourvoit encore aujourd'hui. Nous croyons que tes regards ne sont pas détournés de chacun de tes enfants ce matin. Et je te prie pour toutes ces mains levées, Seigneur. Tu connais les situations, peut-être une famille dans le trou, peut-être un couple qui est en train de battre de l'aile, peut-être un enfant qui part en vrille, peut-être une maladie qui maintient captif. Seigneur, tu es celui qui change les vies encore aujourd'hui. Et je te prie de souffler ce matin. Peu importe le besoin, tu es le Dieu qui prend souci de chacun de tes enfants. Et je te prie vraiment pour une touche de paix ce matin, une touche particulière de ta grâce sur toutes les mains levées dans ce lieu ce matin. Viens encourager et viens y fortifier parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, par ton esprit ce matin, je te prie d'encourager et de fortifier ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu se soucie de nos besoins. Et mon troisième point ce matin, c'est que Jésus est la réponse à nos « où ». Jésus est la réponse à nos « où ». Jean nous relate que Jésus demande à Philippe « Où est-ce que nous pouvons acheter des pains pour donner à manger à cette foule ?» Et vous savez, ce n'est pas par hasard que Jésus s'adresse à Philippe. Philippe était originaire de Bethsaïda, à 14 kilomètres de l'endroit où ils étaient. Donc, Philippe connaissait les bonnes adresses du coin. Comme nous ici, on sait très bien que si on veut manger une bonne viande, on va dans la rue là-bas, ça commence par un P, et la deuxième lettre c'est un L. Je ne peux pas faire de pub pour les restaurants, mais en tout cas, on connaît. Quand on est du secteur, on connaît les bonnes adresses. Philippe connaissait les bonnes adresses. Et ici, le texte nous dit que Jésus veut tester Philippe. Ce dernier était originaire, on l'a dit, de Bethsaïda, pardon. Le mot tester qui est employé, c'est peraizo, qui dans le contexte souligne qu'il met sa foi à l'épreuve. Dieu le place dans une situation impossible, dans le but de l'enseigner à compter sur lui et non sur ses propres ressources, connaissances ou ses capacités. À la question « Où achèterons-nous à manger ?», Jésus attend la réponse « Auprès de toi ». Auprès de toi, Jésus. Regardez la réponse de Philippe au verset 7. « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Une pièce d'argent correspondait à un salaire d'une journée de travail pour un ouvrier agricole. 200 pièces correspondaient grosso modo à 8 mois de salaire. Ces 8 mois de salaire ne suffisaient pas pour nourrir un tout petit peu toute cette foule. De plus, on sait que Philippe connaissait les ressources locales. Et ça nous dit en substance qu'il était impossible, humainement parlant, de se procurer assez de nourriture dans tous les villages avoisinants pour autant de personnes à cette heure tardive de la journée. Par cette question, Jésus veut lui démontrer qu'il n'y a pas de solution humaine à ce problème, mais que seule une intervention miraculeuse peut permettre à ce besoin d'être rencontré et à ce besoin d'être répondu. Dieu peut parfois nous placer dans des situations impossibles afin que nous détournions les regards de nous-mêmes, de nos capacités, de tout ce qu'on est capable de faire, de nos connaissances, si grandes soient-elles, pour fixer nos regards sur lui. Vous savez, tant qu'on est au contrôle de nos situations qu'on peut traverser, finalement, on ne s'appuie pas sur Dieu. Mais lorsque tout s'effondre, nous n'avons bien souvent pas le choix que de crier au ciel « Au secours !»« Seigneur, libère-moi !»« Seigneur, délivre-moi !» Certaines situations dramatiques, inconfortables, peuvent être utilisées par Dieu, pour nous interpeller. C.S. Lewis, le célèbre écrivain, dira la chose suivante. « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » Dieu peut utiliser les circonstances que tu es en train de traverser pour chercher ton cœur, pour chercher ce cœur à cœur particulier avec toi. Je veux nous inviter ce matin à considérer ce que nous sommes en train de traverser. Comment Dieu souhaite-t-il nous interpeller? La réponse où trouverons-nous des solutions aux besoins que nous rencontrons, c'est en lui, en plaçant notre confiance en lui. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est gentil, on parle tout le temps de confiance en Dieu, de foi, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La réponse, on l'a plus loin. Et c'est mon quatrième point ce matin. Jésus ne peut pas multiplier ce que tu ne lui as pas donné. Jésus ne peut pas multiplier ce que tu ne lui as pas donné. Jean 6, 8 à 10, un de ses disciples, André, Michel en parlait tout à l'heure, le frère de Simon-Pierre lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Deux personnes entrent dans notre histoire, André et un enfant. Les deux font le même constat des ressources qu'ils ont à leur disposition. 5 pains, 2 poissons. Mais leur regard est différent. André voit des limites. Qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et cet enfant voit une opportunité. Se pourrait-il qu'il se produise quelque chose avec ma modeste contribution? Il semble que dans cette histoire, les disciples ont plus de moyens que l'enfant, puisqu'on parle même de ses 200 deniers. Ils ont une somme de 8 mois de salaire à leur disposition, alors que lui n'a que 5 pains et 2 poissons. Pourtant, eux pensent ne rien avoir. Lui considère ce qu'il a et ce que cela peut devenir. Eux pleurent pour ce qu'ils n'ont pas. Lui apporte ce qu'il a. Vous savez que le pain d'orge était le pain le moins cher, celui des classes les plus pauvres. Le mot grec employé pour jeune garçon peut également signifier jeune homme ou jeune esclave. Les poissons, c'était vraisemblablement des petits poissons marinés dans du vinaigre destinés à être mangés avec le pain. Donc on parle de nourriture pour des gens qui n'ont presque rien. Les théologiens s'accordent à dire que les 5000 hommes n'incluaient pas les femmes et les enfants. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les Juifs ne permettaient pas aux femmes et aux enfants de manger avec les hommes dans les moments publics. Il y avait certainement deux groupes séparés. Donc la foule qui a été nourrie pouvait facilement constituer 10 à 20 000 personnes. Imaginez le stade de la Méno, à deux arrêts de tram plus bas remplis. Ça vous donne un ordre d'idée de ce que Jésus a fait avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Ce maigre repas apporté par cet enfant était tellement inadapté face aux besoins de la multitude qui était là. Et dans cette histoire, Jésus nous enseigne que les ressources financières ne sont pas primordiales. Les ressources matérielles ne sont pas primordiales. Si on cherche à décider par avance ce qui est possible et ce qui ne l'est pas en fonction de nos ressources, au détriment de ce que Dieu nous dit, nous risquons de limiter l'œuvre de Dieu en nous et au travers de nous. Vous savez, Dieu, parfois, peut nous confier des tâches qui nous semblent impossibles. Ne renonçons pas sous prétexte que c'est pas possible. Si Dieu nous a confié une tâche, c'est qu'il veut rendre l'impossible possible et quelqu'un devrait dire amen. Amen. Dieu est celui qui rend l'impossible possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Comme nous l'a rappelé Jérémie Poulet il y a 15 jours, face à nos défis, la question n'est pas avec quoi on va le faire. Mais avec qui on va le faire? Avec qui on va le faire? Certainement que cet enfant allait mettre à ce moment-là entre les mains de Jésus le seul repas que lui et sa famille allaient peut-être manger pour la journée, voire même peut-être pour plusieurs jours. Mais il croyait en la bonté de celui qui guérissait les malades, de celui qui se souciait des pauvres, de celui qui se souciait des laissés pour compte. Il croyait que Jésus pourvoirait. Est-ce qu'il y a un peuple qui croit que Jésus pourvoit encore aujourd'hui? Amen. Cet enfant nous enseigne ce que signifie avoir confiance ou avoir la foi en Jésus. La confiance, ça marche avec des actes en conséquence. Jésus ne peut pas multiplier ce que vous n'avez pas relâché. Jésus ne peut pas multiplier ce que vous n'avez pas relâché. Connaissez vos tables de multiplication dans cette salle ce matin? Si je mets 0 sur la table et que je multiplie par 5, combien j'aurai à la fin? 0. Je peux le multiplier même par 10 ou par 15. Si je mets rien sur la table, il n'y aura rien de plus. Par contre, il suffit juste que j'amène la petite chose que j'ai entre mes mains. Si je la multiplie par 5, il y en aura 5. Si je la multiplie par 10, il y en aura 10. Si je la multiplie par 15, il y en aura 15. La multiplication ne peut prendre place qu'à partir du moment où je mets mes provisions à sa disposition. Amen. Merci pour le amen là-bas. La multiplication ne peut prendre place que lorsque je mets à sa disposition mes provisions. Si nous n'offrons rien à Dieu, il n'aura rien à multiplier. La foi, c'est pas regarder les situations de l'extérieur en gardant tout dans sa main comme une sécurité pour dire « Vas-y Dieu, montre-nous ». Ça, c'est pas de la foi. La foi, elle coûte. La foi, elle engage. Et comme cet enfant croyait en la bonté de Dieu qui pourvoit nos besoins, qui prend soin de nous et qui agit en conséquence, nous sommes invités à venir avec ce que nous avons et le laisser entre les mains de Dieu. Ma question ce matin, c'est quel regard portes-tu sur ce qu'il y a entre tes mains? Vois-tu des limites ou vois-tu des possibilités? On poursuit la lecture, Jean 6, 11 à 13. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Jésus prend les pains et remercie Dieu. Vous savez, il y a une puissance dans la reconnaissance. Sommes-nous reconnaissants pour ce que Dieu nous accorde ou sommes-nous mécontents pour ce que Dieu ne nous a pas donné? Ça, on peut passer notre vie à pleurer, à jeûner, mais Seigneur, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et puis j'y arriverai pas. Là, il n'y a que 5 pains et 2 poissons, mais on voit Jésus qui dit merci, qui bénit Dieu pour ces 5 pains et ces 2 poissons qui sont là. Avec quelle attitude je m'approche de Dieu? Est-ce que j'ai cette reconnaissance pour ce qu'il fait pour moi au quotidien? Ou est-ce que je suis un mécontent, un râleur qui n'en a jamais assez? Notons dans cette histoire qu'il ne bénit pas les pains, il remercie Dieu. Il n'est pas en train de bénir les pains. Il remercie Dieu. Il est possible que Jésus ait utilisé une formule classique chez les Juifs d'action de grâce qui disait « Bénis-tu, béni es-tu, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre. » Il remercie Dieu, celui qui pourvoit. Vous savez, la reconnaissance permet de libérer ce que Dieu veut faire. La reconnaissance permet de célébrer celui qui prend soin de nous, esprit, âme et corps. Il est celui qui est fidèle et il est celui qui nous a secourus jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été secourus jusqu'à aujourd'hui dans cette salle? Est-ce que vous croyez que celui-là, il est encore capable de vous secourir pour demain? Il est ce Dieu fidèle. Le texte ne nous décrit pas comment le miracle a pris place, mais ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que les disciples distribuaient la nourriture, la multiplication miraculeuse était en train de s'accomplir. Le texte nous dit ensuite, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Quand Jésus multiplie, il y a des restes, mes amis. Quand Jésus multiplie, il y a de l'abondance, mes amis. Parce que Dieu nous comble de ses grâces, de ses cadeaux qu'on ne mérite pas. Ce que tu vas confier à Dieu ne va pas te manquer à la fin. Mais au contraire, il va y être multiplié. Je me souviens du témoignage d'une femme que j'avais lue dans un magazine qui disait, mais elle avait peur de prendre le temps pour la prière le matin parce qu'elle disait, mais j'ai pas le temps de remettre ma journée à Dieu parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les choses de la famille à gérer. Et si je prends du temps pour prier, je vais pas réussir à boucler ma journée. Et quand cette femme a commencé à prier, elle s'est rendue compte que dans son temps de prière, c'est comme si Dieu conduisait la journée. Là où des fois elle se posait des questions, qu'est-ce que je vais faire? Tout était clair pour elle. Et quand tu commences à remettre entre les mains de Dieu ta journée, tes finances, tes plans, toutes ces choses-là, Dieu conduit les choses. Dieu conduit les choses et à la fin tu gagnes du temps. À la fin tu gagnes du temps. Dieu a conduit cette femme dans ses prises de décision. Et finalement c'est un gain de temps énorme qu'elle a eu à la fin et elle a été plus efficace dans les actions qu'elle avait à mener. Le temps que tu vas passer avec Dieu n'est pas du temps de perdu, mais du temps de gagné. Le temps que tu vas passer avec Dieu n'est pas perdu, mais ça va être du temps de gagné. Ce que tu vas offrir à Dieu, ton temps de bénévolat, ton argent pour le développement de l'œuvre du royaume de Dieu, ne va pas être une perte, mais un gain. Regardez ce que a fait cet enfant. Il a sacrifié son propre repas pour le bien de la foule. Et il est parti rassasié et repu. Comme tous les autres. Certainement que ce qu'il avait à manger, ça n'aurait pas nourri grand-chose pour lui ou pour sa famille. Mais il a amené ça à Dieu et il a été au bénéfice de ce que notre texte nous dit, qu'ils sont tous repartis rassasiés, il était rempli. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est quelque chose de gagné. C'est quelque chose qui fait la différence. Enfin, mon dernier point ce matin, c'est fais comme Jésus, n'impose pas sa royauté. Fais comme Jésus, n'impose pas la royauté de Jésus à ceux qui t'entourent. On continue la lecture, Jean 6, 14 à 15. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Au travers de ce signe miraculeux, le peuple voit en Jésus le prophète qui devait venir dans le monde et qui fait écho à Deutéronome 18:15, où le texte nous dit « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. » Le théologien Don Carson, expert en Nouveau Testament, commente ce passage en disant « Jean ici ne prétend pas que ces hommes se trompent dans leur jugement. Ils font simplement erreur sur sa portée. Leur attention se focalise sur la nourriture et sur la victoire, et non sur la révélation de Dieu par le Fils incarné, ce Fils en lequel ils ne voient pas le pain de vie, mais la simple réponse à leur propre faim. » Le miracle qui s'est produit ici introduit le discours quelques versets plus loin, où Jésus se révèle comme étant le pain de vie qui offre son corps. Jean 6, 35, Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de vie. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dieu est celui qui pourvoit à nos vies, esprit, âme et corps. De la même manière que Moïse a conduit le peuple à sortir du joug égyptien et qu'il a nourri le peuple dans le désert grâce à la manne que Dieu envoyait, ben les gens étaient en train de voir Jésus qui nourrissait les foules de manière surnaturelle. Ils s'attendaient donc à ce que Jésus soit ce prophète promis qu'il allait entrer dans son rôle de roi. À leurs yeux, il n'y a rien qui s'opposait à ce qu'il soit le puissant libérateur que les enfants d'Israël attendaient. Comme Moïse avait délivré le peuple d'Égypte, Jésus allait délivrer le peuple des Romains. Imaginez-vous, il y avait 5000 hommes avec lui là. C'est une armée ça. Il aurait pu aller faire un putsch, il aurait pu soulever tous ces gens, les haranguer, ils étaient partis, ils auraient pu mener un putsch. Il aurait pu partir à la tête d'une armée et faire une insurrection. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Don Carson soulignera encore, le royaume de Jésus ne ressemble à aucun autre. Jésus sait que le triomphe de son royaume ne passe pas par la défaite de l'ennemi dans le cadre d'une guerre conventionnelle, mais passe par sa propre mort et sa résurrection d'entre les morts. Mes amis, je ne crois pas que l'Église doit chercher à imposer ses standards chrétiens sur notre société. Vous savez, on ne vit pas dans un monde chrétien. Alors je vois des fois des choses qui circulent sur Internet. Oui, la France est un pays chrétien, et puis là, il y a les envahisseurs et il y a tout ça. Mes amis, la France n'est pas un pays chrétien. La France est un pays sans Jésus. La France a besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus qui transforme les vies. Je pense qu'on se trompe de combat lorsqu'on voudrait que notre nation soit régie par une morale chrétienne. Jésus ne pouvait pas être roi sans la croix. Et ceux qui nous entourent ne peuvent vivre une bonne morale sans expérimenter dans leur vie l'œuvre de la croix. Sans expérimenter ce que Jésus a accompli. J'en peindrai en substance que dit souvent Gaëtan Brassard du Portail au Québec, quelqu'un avec une bonne moralité sans Jésus, c'est quelqu'un avec une bonne moralité qui va en enfer. Ah, j'entends pas beaucoup de amen ce matin. Hein. Parce que des fois on dit, mais je suis quand même un bon chrétien. Hein. Je lis ma Bible tous les jours, je vais à l'église chaque dimanche, j'ai pas loupé un seul culte sur YouTube. C'est pas ça qui te sauve mon ami. Ce qui te sauve, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix pour toi. Une bonne moralité ne fera pas de nous un bon pays. Nos contemporains ont besoin d'entendre et de voir vivre des disciples de Jésus, qui par leur vie sont un témoignage de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Nos contemporains n'ont pas besoin de voir une bonne moralité. C'est pas elle qui va sauver notre nation. C'est pas elle qui va sauver notre monde. C'est une personne qui va sauver notre monde. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et on voit dans ce passage que Jésus ne s'impose pas aux gens. Il se propose. Notre rôle est donc de partager et de proposer celui qui est le véritable pain de vie, capable de rassasier et de combler le vide profond de ceux qui nous entourent. Alors peut-être que ce matin on se sent sans ressources, on se sent petit. Peut-être qu'on se sent faible comme ce petit garçon. Peut-être que la tâche nous semble insurmontable, mais Seigneur, comment allons-nous faire ? Croyons qu'avec Dieu, ce que nous avons entre nos mains peut se multiplier et faire jaillir la vie en nous et autour de nous. Amen. J'aimerais faire un appel ce matin, j'ai invité l'équipe à revenir et peut-être on pourrait reprendre ce chant « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ?» Peut-être que ce matin, le Seigneur veut interpeller certains d'entre nous à arrêter de se focaliser sur ce que tu n'as pas. Ou peut-être pour un autre à toujours compter sur tes propres ressources ou tes capacités. Et tu crois que c'est tout ça qui va te débloquer l'impossible. La réponse au « où » de ta vie, elle est en lui. La réponse au « où » de ta vie, elle est en lui. Peut-être pour d'autres ce matin, c'est que tu ne vois pas le miracle prendre place parce que tu retiens des choses captives. Comme si tu avais le poing complètement fermé. Parce que tu as peur que si tu lâches les choses, elles vont se disparaître de tes mains et elles vont être perdues. Tu as peur peut-être ce matin de lâcher des choses au niveau de tes finances. Peut-être tu as peur de lâcher des choses au niveau de ta famille. Jésus veut que tu expérimentes sa bonté à ton égard. Mais pour cela, il faut que tu relâches. Il faut que tu libères ce que tu es en train de serrer entre tes mains. Moi, je ne suis pas dans vos cœurs. Mais chacun d'entre nous retenons des choses. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre debout parce que je le suis déjà. Mais tous, chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on maintient serrées parce qu'on a tellement peur de le perdre. Parce qu'on ne croit pas en la bonté de Dieu qui veille sur nous et qui sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Alors on retient, on serre nos poings et on lâche rien. Et si tu n'ouvres pas ta main, tu ne pourras pas voir la multiplication. Enfin, pour d'autres, il s'agit ce matin d'une mentalité où tu veux forcer tes proches, tu veux forcer tes enfants, ton pays à adhérer à une morale chrétienne. Vous savez, Jésus a refusé d'imposer sa royauté, mais il la propose à ceux qui l'acceptent. Tiens-toi au pied du maître pour ceux que tu côtoies. Tiens-toi auprès du maître pour ceux que tu aimes. Tiens-toi au pied du maître pour intercéder et prier pour eux. Sois un témoignage de sa grâce dans ta vie. Fais confiance à Dieu et laisse-le agir. Si vous êtes interpellé ce matin, où que vous vous trouviez, est-ce qu'on peut se mettre debout à notre place ce matin? Peut-être que tu te retrouves dans cet appel. Tu sais qu'il y a des choses que tu maintiens captives. Tu sais qu'il y a des gens que tu veux forcer à adhérer à un christianisme, mais ça ne marche pas. Parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Notre job à nous, c'est d'être des témoins de sa grâce et de se tenir au pied du maître pour dire « Seigneur, je te prie d'agir, je te prie de toucher, je te prie de rencontrer encore ceux que j'aime, ceux qui sont autour de moi. » Je voudrais que symboliquement, ce matin, on lève la main. On vient de parler de choses qu'on retient captifs. Peut-être vous avez le point fermé, peut-être symboliquement ce matin, s'il y a quelque chose que tu sais que tu retiens captif, d'ouvrir ta main pour dire « Seigneur, je sais que peut-être des fois je vais tenter de la refermer. Mais ce matin, Seigneur, je veux te laisser les choses. Je veux te laisser être ce Dieu de la multiplication dans ma vie. Je veux te relâcher mes finances. Je veux te relâcher ma famille. Je veux te relâcher ce problème de couple qu'on est en train de vivre en ce moment. Je veux te relâcher toutes ces choses où je résiste. Je veux peut-être relâcher le pardon ce matin. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu es ici et tu es enfermé dans une chose où tu ne vois pas le miracle parce que tu refuses de pardonner. Le Seigneur ce matin te demande de relâcher. Relâche le pardon. Le pardon, c'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est de refuser que ça vienne pourrir ton présent et le futur de cette relation avec la personne avec qui tu es en froid. Le Seigneur ce matin t'invite à relâcher. Alors symboliquement, on veut relâcher ce matin devant le roi des rois. On ne veut pas voir ce qui nous limite ce matin, on veut voir les possibilités de ce que Dieu est capable de faire avec la pauvre contribution ou qu'on puisse amener à Jésus. Est-ce qu'on peut louer ce matin Jésus? Je vais laisser Michel terminer sur cet aspect. Et qu'on puisse se prendre ce chant comme une prière. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Qu'on puisse le chanter comme une prière ce matin.
À quel autre irions-nous qu'à toi?
tu es le Christ.
Que tu es le Christ. Que tu es le Christ. Le Fils de Dieu.
Nous sommes de tout cœur avec ce message que nous venons d'entendre. Notre prière, c'est que les paroles que nous avons reçues ne passent pas à côté de nous. Merci de nous aider à intégrer, à nous approprier les vérités fondamentales de ce texte. Ta parole est écrite afin que nous croyions que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es celui qui devait venir pour nous sauver, pour transformer nos vies, non pas seulement améliorer, mais transformer, métamorphoser notre existence. Merci de permettre à cette journée de contribuer à cette métamorphose, cette transformation dont nous avons tous besoin. Merci pour ton secours, merci pour ton aide, merci pour ta provision. Oh, nous voyons comme ces disciples repartent avec ces paniers pleins. Nous aussi, aujourd'hui, nous repartons de ce lieu rempli, renouvelé, et nous voulons garder devant nos yeux toute cette semaine, mais dans les jours à venir, les corbeilles pleines de miettes. Ta parole est largement suffisante pour tous nos besoins. Ta parole nourrit notre âme, elle nourrit notre existence, elle nourrit notre vie, elle nous donne un avenir et de l'espérance, elle communique un sens profond à notre vie, et nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, elle est la vérité, et tu nous affranchis, tu nous libères par ta vérité. Merci pour Raymond Pierre, merci pour ce message, merci pour la communion fraternelle, merci pour la prière, pour le chant, pour la louange, merci pour toutes ces choses qui contribuent à notre avancement, à notre progrès, à ce que nous grandissions dans notre connaissance de Jésus et notre amour pour Jésus. Et tout le monde dit amen, amen, amen. Merci pour votre bonne disposition et la réception que nous sentons dans ce lieu. Et nous espérons aussi pour vous, autour de votre écran, que vous puissiez être réceptifs à ce qui est mis en place pour vous bénir. Notre culte s'achève maintenant. Nous espérons que vous allez passer un bon dimanche et une très bonne semaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas pour dimanche prochain, n'oubliez pas de vous inscrire. Nous aurons donc un service de baptême et nous nous réjouirons avec ceux qui s'engagent à suivre Jésus. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche à tous, excellente semaine à chacun et chacune.